Vous écoutez
RMC.
RMC. Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. Comme tous les soirs, nous sommes en direct, bien sûr, à la radio, sur RMC, à la télé, sur RMC Sport News, dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas, avec une équipe Coupe de France pour la semaine, emmenée par Jérôme Rantaine, spécialiste de la Coupe de France.
Ça veut dire quoi? Oui, je l'ai gagné, mais tu n'es pas obligé de le rappeler.
J'avais un doute. Coupe de la Ligue, je me souviens, mais.
De France, bah, déjà j'ai gagné la plus belle.
Ah, le fameux
finale.
But de Dorasso.
Ouais, PSG, le premier PSG Marseille de l'histoire.
Kevin Diaz est également là ce soir. Salut Kevin.
Salut. Moi je ne l'ai pas gagné. Mais
Non, mais t'avais. Je me souviens de toi, t'étais au bord là.
T'sais. Ouais, j'étais ramasseur de balles l'année
non.
où il a gagné la.
Non, t'étais spectateur, mais c'est bien. C'est bien déjà de nous côtoyer. Imagine maintenant la chance que tu as, tu fais des émissions avec moi.
Ce type-là ne s'arrête jamais en fait, c'est ça qui est terrible.
C'est pour ça qu'on l'aime.
Ouais. C'est lui, mais je m'arrête pas, il me le dit en off, j'ai le droit de le dire à l'antenne quand même.
Je ferai pas de commentaires.
Bah voilà.
3-0 pour Rennes à Belfort, premier qualifié pour les demi-finales, bien sûr. Alors on va parler de ce match, bien sûr, avec vous, hein, supporter Rennes au 32-16. Ce qui nous permettra, tiens, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire dans l'after avec vous les gars, de revenir sur ce qui s'est passé ces derniers jours à Rennes. Hein, les temps qui n'est plus là, ce qui s'est passé en coulisses, qu'est-ce que ça signifie, quelles sont les conséquences. Et puis parler également du statut aujourd'hui de Rennes, parce que peut-être que Rennes franchit un palier encore ce soir. L'année dernière, vainqueur de la Coupe, parcours en Coupe d'Europe. Cette année, peut-être podium et demi-finale de Coupe de France à minima. Ils s'installent quand même, les Rennais, dans un,
c'est bien.
Dans un gotha du football français dont ils ne faisaient pas partie il y a quelques temps.
Exactement.
Donc on va en reparler dans quelques minutes ensemble. Supporters Rennais, on vous attend au 32-16. Et puis tout sur le match de demain entre Lyon et Marseille. Il y a eu les conférences de presse, on vous donnera les infos. On se posera la question de savoir si aujourd'hui Marseille n'est pas en train de finalement supplanter Lyon sur plusieurs plans. On en parlera tout à l'heure. Et puis les dernières nouvelles du PSG, puisque Tourelle lui aussi s'est exprimé après Leonardo aujourd'hui. Vous allez voir qu'il est un peu... Comment dirais-je ? Il est un peu expliqué avec des mots intéressant la situation et parfois la petite panique qui peut s'emparer des supporters avant les matchs de Coupe d'Europe.
Et de lui aussi.
Non, c'est intéressant. Ce sera tout à l'heure.
Lui, il te dit la panique qu'il a aussi ou c'est que les supporters en fait?
Non, mais il dit.
Est-ce qu'il a la pression?
Ça, c'est
moi, je pense que la pression qu'il a. Oui.
Ouais. Voilà, forcément. Il joue son avenir dans tous les cas.
Ah, tu. Carrément.
Bah, il joue son avenir au Paris Saint-Germain.
Oui.
Ça me paraît logique, non?
Effectivement. Bon, je vous épargne les trois points ce soir sur ce match de Coupe de France. Bon, ça a été vite plié finalement. Hein.
Oui, ça a été vite plié parce que c'est toujours pareil. Quand t'as une équipe professionnelle, joue une équipe amateur, si elle arrive à marquer assez vite, ce qui a été le cas, déjà ça éteint un peu l'équipe adverse, même si ils ont fait des choses intéressantes. Il y a rien à dire. Ils ont fait leur match. Ils ont fait le maximum. Il manque un peu de réussite parce que dans ces matchs-là, si le club amateur veut faire l'exploit, il faut sur les premières occasions essayer de marquer. Et marqué, pas essayé. Ils l'ont fait, mais ils n'ont pas réussi. Et puis derrière, Rennes, avec beaucoup de maîtrise, non, tu disais, parce qu'on ne va pas parler spécifiquement du match, bon, je pense que des enseignements, c'est difficile d'en tirer sur des matchs de Coupe de France comme ça, contre une équipe vraiment inférieure. Mais ce qui est sûr, c'est que sur ce club,
ça c'est un peu facile à dire quand même. Parce que quand par exemple Épinal élimine Lille,
Tu
vois, ça se joue pas, c'est bon.
Oui,
donc il y a quand même des choses à dire sur ce match.
Qu'est-ce que tu veux dire sur, plus, tu vas tirer des enseignements sur Rennes, non, sur les joueurs quand ils jouent une équipe de National 2. Mais franchement, il faut être sérieux.
Mais c'est un peu cruel, c'est-à-dire que tu dis ça, ils se qualifient facilement, donc on dit rien.
Mais oui, mais
en revanche, s'ils avaient été éliminés,
c'est ce qui est cruel.
On les aurait laminés.
Mais parce que moi, ça m'est arrivé de perdre contre des amateurs.
Pression négative.
Mais non, mais ça m'est arrivé de perdre contre des amateurs. Et souvent, qu'est-ce que c'est le mot? C'est une faute professionnelle. Ouais. Ce qui a été le cas des Lillois, je suis désolé, on l'avait dit, et à juste titre, ils se sont remis en question depuis, parce qu'en championnat, ils sont vraiment bien maintenant. Et bien, tant mieux pour eux si ça les a fait réagir. Et Rennes, s'ils étaient passés à côté en étant tenant du titre, alors que tu sais que Belfort a déjà fait un exploit le tour d'avant, même le tour d'avant aussi, Écoute, au bout d'un moment, il faut être concentré, sérieux. Si c'est le cas, tu gagnes. Eh ben, c'est le cas. Voilà.
Il y a une différence entre le match d'Épinal à Lille. Enfin, de Lille à Épinal, pardon. Épinal, ouais. C'est que c'était quand même dans le club et sur le stade de la Nationale 2. Là, c'est dans un stade professionnel.
Bah, si ça s'était joué à Belfort, peut-être que...
Non, mais je veux dire que le professionnel, quand même, quand il est... Je pense que tu seras d'accord, peut-être, Jérôme, mais quand le professionnel arrive dans un stade pro avec une pelouse quand même cohérente, oui. Tu vois, le contexte est quand même différent. Et le joueur amateur, par contre, lui, peut être un peu impressionné. Tu vois, il y avait quand même 20 000 personnes. En National 2, s'il y en a 2 000, c'est déjà énorme. Donc, ça fait quand même... on parlait hier de cette fameuse de cette fameuse pression ou pas, de ce stress que ressentent les joueurs en fonction de tel ou tel
plus
contexte.
Plus de monde que pour les matchs de Sochaux. Hein.
Oui, forcément. C'était un peu l'événement de l'année.
Pourquoi forcément?
C'était un peu l'événement de l'année quand même. On
peut pas comparer.
Un quart de finale de Coupe de France.
Sochaux, c'est un club historique du foot français.
Oui, mais là, c'est un quart de finale de Coupe de France.
Et puis toute la région est mobilisée. Ouais. Ce que je veux dire, même les Sochaliens, ceux qui sont supporters de Sochaux, ils avaient envie que Belfort il fasse l'exploit.
C'est pas tout Belfort voulait pas avoir Rennes ce soir. Je pense que c'était pas pour l'adversaire.
De quoi? Non. Pas pour l'adversaire, c'est pour l'événement. C'est pour l'événement, pour voir Belfort faire encore un exploit.
Bon, les Rennais ont quand même été sérieux dans ce match déjà. Ouais.
Bah alors, mais ça suffit, hein, Kevin, hein, sur ce match-là.
Si t'es sérieux, t'es dans un cadre pro, dans un stade. Voilà, on voit avec des joueurs comme Rafinha.
On va en reparler de Rafinha. Qui
franchement, au moins au niveau technique, au niveau de la vitesse aussi, il est quand même largement au-dessus pour le coup du nez. Il a vraiment les qualités pour faire mal à ce genre d'équipe qui, forcément, lorsqu'il y a autant d'impact, autant d'agressivité de la part d'un joueur professionnel et autant de sérieux de l'équipe entière, c'est très très difficile de créer l'exploit. Hein.
On a avec nous Benjamin qui est supporter Rennais. Salut Benjamin.
Salut messieurs, salut à tous.
Salut Benjamin.
Bon,
salut Benjamin.
T'as pas tremblé non plus?
Non, écoute, on marque relativement vite. Ça garantit un petit peu. J'avais un peu peur de prendre un rouge, pour tout te dire. Et je trouve que le choix de Stéphane de sortir à la mi-temps Léa Siliki était le bon. Hein, parce que, voilà. Le mot, Jérôme le disait, c'est sérieux, c'est ça. Et ça commence même par l'entraîneur quand tu vois le 11 de départ que Rennes met ce soir. C'est déjà un premier signe de sérieux par rapport au club, par rapport aux ambitions dans cette compétition. Donc c'est très bien, hein. Il y a une histoire d'amour entre le club, les supporters et la Coupe de France notamment depuis le 27 avril de l'année dernière. Il faut que ça continue, c'est bien, on a un trophée à défendre, on le fait sérieusement. Dans les petites choses à retirer du match, je dirais que Nzonzi va faire du bien. L'entente Nzonzi-Kamavinga, je pense que ça peut être quelque chose à voir, hein. Ça peut être intéressant.
C'est complémentaire.
Il y a une complémentarité. Après, je pense que Nzonzi, on ne l'a pas encore vu, parce qu'il va faire du super boulot quand on va être dans un rôle défensif. Là, ce soir, ce n'est pas trop le cas. C'est plutôt, mais dans les transmissions de balles, c'est propre, quoi. C'est agréable à regarder.
Et bon, puis, c'est un bon joueur, de toute façon.
Il n'est pas champion
du monde, même s'il n'a pas beaucoup joué par hasard.
Le coup de gueule, et là-dessus, vous aurez sûrement quelque chose à dire. C'est en attaque Adrien et nous ce soir. On a le droit d'être mauvais, on n'a pas le droit d'être en dilettante comme ça. Je comprends pas.
Je trouve que tu es un peu dur, moi.
Il rate
un contre un moment.
Il y a aussi la qualité quand même du gardien adverse qui fait de belles parades. Si je suis d'accord avec toi, Benjamin, quand tu dis qu'il doit. Alors dilettante, je ne sais pas. Peut-être comme dit Gilbert, que t'es un peu dur. Maintenant, il manque peut-être un peu de détermination, on va dire, dans la façon qu'il a d'approcher son dernier geste. Mais t'as dit quelque chose qui est très important et on va en parler après. T'as parlé de la composition de départ, mais je pense de toute façon que Stéphane pouvait pas se permettre là de rater ce match, ne serait-ce que de souffrir, d'aller aux prolongations, voire au pénalty. Il avait vraiment envie, après le départ de son ancien président, quand même, de ne surtout pas paraître ridicule et de mettre sa meilleure équipe face à une équipe
logique,
comme ça.
Dans tous les cas.
Tout le monde avait besoin, ce soir, je pense, du côté du club, des supporters, des joueurs, même de l'entraîneur, comme tu dis, tout le monde avait besoin d'une victoire, et de préférence une victoire nette.
Voilà.
Là, c'est le cas. Voilà, ça, je te dis pas qu'on va gagner à Reims dimanche, hein, c'est pas ça, hein, surtout pas, et qu'on va garder la troisième place, c'est encore moins sûr. Mais si ça peut amener un peu de sérénité, se remettre dans un état d'esprit positif,
Juste sur Rouleau, j'aimerais bien que Jérôme et Kevin donnent leur avis. Moi, je trouve qu'on parle assez peu de ce joueur, qui est quand même hyper régulier. Qui franchement a une intelligence. Enfin bon, alors, ce soir il fait peut-être pas son meilleur match, Benjamin. Je suis d'accord, mais enfin il est pas non plus pour moi cataclysmique. Je veux dire, il est un peu sous-coté ce type-là, je trouve. Moi j'aime bien. Il marque beaucoup de buts, décisif, toujours bien placé.
Il me ferait pas penser à un certain Thomasson de Strasbourg. sont un peu dans le même profil, je trouve, des
joueurs.
Ouais,
Nunu joue un peu plus haut.
Ouais, il joue plus haut.
Ouais, il joue un peu plus haut, mais quand même, tu vois, des joueurs intelligents, qui ont pas forcément un gabarit énorme, on dit que souvent en Ligue 1.
Mais discret, efficace, quoi.
Voilà, intelligent dans leur placement, comme t'as dit, juste techniquement. Bon, ce soir, il a manqué dans la, il a pêché dans la finition, ça peut arriver. Maintenant, en effet.
Non, mais Rennes, on parle beaucoup de Niang, Kamavinga.
Des bons joueurs de Ligue 1.
Nous, on en parle quasiment pas.
Non, mais. Un ton en dessous de Bourigeaud pour moi.
Après, que tu parles des Kamavinga et autres, je pense que c'est des joueurs qui ont un potentiel pour devenir les meilleurs en Europe à leur poste. De toute façon, c'est pour ça qu'on en parle en bien et que avec en plus Kamavinga, l'âge qu'il a, ça me paraît logique. Après, Ounou, oui, pour moi, ça fait partie de la classe des bons joueurs de Ligue 1, des joueurs de club. Je pense qu'Ounou n'aura jamais une carrière internationale, ça c'est sûr. Mais
je pense qu'Ounou, il peut pas jouer demain. Je sais pas moi, à Lyon, à Marseille, par exemple.
C'est compliqué. C'est compliqué, je pense pas non plus. Je pense pas.
Il pourra faire ce qu'on fait pas mal de bons joueurs. Je sais pas si la première ligue au niveau de l'intensité, faut voir. Après, on va pas être catégorique, mais il peut aussi progresser, il peut prendre du volume. Maintenant, tu vois, s'il faisait déjà une belle carrière à Rennes comme à Giron,
ou nous là.
Justement, je suis en train de vérifier
et
ça.
Et ensuite, il a 27 ans, je
c'est ça. C'est
voilà, s'il pouvait par exemple faire 3-4 ans.
Il a 26.
Il a 26 ans, donc s'il peut confirmer d'abord, ça c'est important, et ensuite s'il peut faire,
pas se leurrer.
4 ans en Bundesliga dans un beau club, ça peut être aussi une belle carrière.
Il ne faut pas se leurrer, je pense que le potentiel d'Ounou aujourd'hui, déjà vu l'âge qu'il a, alors tu peux toujours progresser, à tout âge tu progresses, mais après tu ne deviens pas un monstre comme ça d'un seul coup, même si tu as la confiance des dirigeants et d'un entraîneur dans un autre club. Si Rennes veut continuer à grandir, ça ne passera pas par un Ounou titulaire dans leur équipe. Ça, c'est sûr, dans tous les cas.
Donc, la grosse satisfaction, excuse-moi, Jérôme.
Ouais, vas-y.
La satisfaction, c'est aussi, et par rapport à l'année dernière, je trouve qu'on a vraiment une amélioration, c'est au poste de gardien de but. Edouard Mendy, on savait qu'il était un bon gardien à Reims. Et je trouve que c'est vraiment, il est rassurant, il est grand dans les relances, sur les corners, etc. Voilà, c'est pas sur le match de ce soir encore qu'on l'a peut-être vraiment vu, mais depuis le début de la saison, c'est vraiment un gardien qui est à niveau au-dessus encore. Et voilà, je pense que.
Non, parce qu'il fait la bonne parade à un moment, il a bon geste à 1-0. C'est jamais facile pour un gardien de défendre sur ce genre de coup franc rentrant que tirait très bien Jérôme Roten. Et la tête, elle est bien reprise également. Et l'arrêt du pied, il est décisif parce que derrière, Rennes aurait même dû marquer le deuxième but.
Et Rafinha, alors les gars, on regarde Rafinha?
Je sais pas si vous voulez vous enthousiasmer parce qu'il a été excellent contre une Nationale 2.
Jérôme, regarde, moi je te propose un truc. Ce soir, on parle de Rennes. Alors, il y a le match ce soir. On a l'occasion de parler un peu longuement de Rennes ce soir. Donc, en fait, je pense qu'il faut pas prendre comme base de toute analyse le match. Rafinha, comme Ounou. Je veux dire, c'est les mecs. Ils font leur saison. Oui. Non, parce que après, je veux qu'on parle de Rennes et de son statut maintenant dans le foot français. Je veux qu'on parle de ce qui s'est passé avec l'Étang. Voilà, il y a eu le match ce soir, ok. Mais enfin, il faut pas voir tout.
Non, mais Rafinha,
le du match de ce soir.
Rafinha, alors oui, d'accord. Alors qu'il soit dans la continuité de ce qu'il fait depuis quelques semaines.
Rafinha, c'est un excellent recrutement. Faut le dire.
Oui, au début, joueur qui va être mieux qu'un bon joueur de Ligue 1, tu vois ce que je veux dire?
Non, mais bien sûr.
Je pense.
De toute façon, ça se voit. Il a le potentiel. Et même quand il était pas bon au début, tu sentais qu'avec le ballon, il se passait des choses. Alors après, t'arrives, tu découvres un autre championnat, la première expérience pour lui, dans un autre pays.
Bon, c'est un Brésilien.
Oui, non, mais bon. Oui, bon, excuse-moi.
Ce que tu veux dire.
À l'âge qu'il a, et quand il était au Portugal, c'est plus facile.
C'est un peu la maison.
Ce que je veux dire, c'est plus facile.
Il a quand même coûté 25 millions, hein.
Ouais. Mais il y a le poids du transfert. Il y a arrivé dans un club qui a l'année dernière performé, hein, en gagnant la Coupe de France et en faisant un beau championnat. Derrière, ils ont fait l'Europa League. Début de saison catastrophique de l'équipe de Rennes. Des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau, des joueurs cadres. Donc lui, il arrive à ce moment-là. Donc en plus, le temps d'adaptation et sur un joueur étranger comme ça, ça peut des fois durer un an. Lui, c'est allé assez vite. Alors les premiers mois n'ont pas été bons, et puis derrière, on a vu quelques éclairs. Là, en fait, ses coéquipiers commencent à le connaître, les déplacements, comment il aime recevoir le ballon. Son but aujourd'hui, si on en parle, Del Castillo fait une superbe inspiration. La passe, elle est fabuleuse. Mais lui, il vient de son côté pour venir percuter devant le but. Ça veut dire qu'il a faim aussi de but, de enfin faire tourner ses stats. Donc tout ça, c'est positif. Après, oui, la qualité du joueur, dire il peut jouer côté droit, côté gauche, même attaquant de pointe. Je pense que de toute façon, il tirera plein de choses chose de positif. Ouais.
Mais là où c'est intéressant,
Kevin et ensuite Benjamin.
Mais là où c'est intéressant, Gilbert, pour parler un peu plus de l'organisation et de la structure de ce club rennais qui travaille bien quand même depuis plusieurs saisons, c'est que en fait Rafinha, c'est un joueur. Le recrutement de Rafinha, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, alors j'ai pas d'infos, hein, mais je connais pas exactement les détails de la cellule de recrutement de Rennes, mais pour moi, c'est un joueur qu'ils ont dû suivre depuis un certain nombre d'années. Pourquoi je te dis ça ? Pour suivre le championnat portugais régulièrement, il vient de Sporting, qui pour moi, hein, sans manquer de respect à Rennes, est un plus grand club que Rennes. Mais il n'a pas vraiment réussi à Sporting. Par contre, à Vitória Guimarães, il y a 2 ans, 3, 4, ça fait déjà 4 ans qu'il était au Portugal. Là, il a été très très bon pendant plusieurs saisons. Et donc, je soupçonne, et j'espère que les Rennais l'ont suivi déjà depuis quelques saisons, et que malgré qu'il n'ait pas été resplendissant avec Sporting, ils ont quand même tenté le pari de mettre quand même 25 millions sur lui. Et là, je trouve que c'est intéressant à noter de la part de la cellule de recrutement ou de la part des décideurs. Je pense
après c'est
de Stéphane et de
c'est important
l'ancien président.
C'est important ce que tu dis aussi sur le Sporting, parce que si comme tu dis, alors moi je l'ai pas
vu évoluer. Il était pas mauvais, mais il était pas aussi bon que.
Donc c'est aussi peut-être que.
Il est arrivé dans la meilleure période.
Ouais, donc ça joue encore plus quand t'es un jeune joueur et que t'arrives et les caractères. Moi, le seul bémol que je mettrais, alors il a beaucoup de qualités et comme beaucoup d'attaquants de côté aujourd'hui, c'est-à-dire c'est des joueurs avec beaucoup de vitesse, percutants, qui sont capables de marquer, qui sont capables de donner. Mais sur la dernière que je viens de dire, donner, je trouve que des fois il s'entête un peu trop à partir dans les dribbles, tu vois. Ouais. Il faut qu'il arrive à simplifier avec des joueurs qui sont intelligents à Rennes. Là on parlait d'Ounou, mais au milieu de terrain, t'as des joueurs quand même de ballon, quoi. Bourigeaud, c'est un très bon joueur. T'as Nzonzi maintenant, t'as Kamavinga. C'est des mecs qui sentent le foot, qui puent le foot. Et lui, il doit se servir d'avoir ses coéquipiers à côté pour être encore mieux et simplifier dans certaines zones. Parce que je l'ai vu prendre quelques risques sur des matchs de championnat quand il est bas. Et qui va toujours faire la même chose. Il prend le ballon, il essaye de se retourner alors que c'est quasiment impossible de dribbler 2-3 joueurs, même s'il en est capable. Hein, il a le potentiel pour ça. Je pense que ça, c'est sa marge de progression. Après,
l'efficacité. Ouais, c'est l'efficacité. Et après, Benjamin, tu me dis ce que t'en penses.
À 25 millions, quand même, quand ça, c'est lacune-là.
Le problème, mais ce que tu
c'est cher.
Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Alors, on va dire les moins de 25 ans. D'ailleurs, Thauvin le faisait aussi quand il était un peu plus jeune.
Exact.
C'est-à-dire que, comme tu dis, les joueurs de côté, surtout, qui sont censés être les dribbleurs, les gars, dans les 50 premiers mètres, voire dans les 40 premiers mètres de ton équipe, tu dribbles pas. C'est une, deux touches, je donne. Et dans la moitié de terrain adverse, là, je tente d'être déséquilibré. Là, je peux perdre le ballon. Mon équipe, elle est pas en danger s'il y a une perte de balle.
Oui, Benjamin.
Par rapport à Rafinha, les deux choses à rajouter par rapport au transfert, déjà pour te répondre partiellement. Je sais que Rennes aussi je sais pas depuis combien de temps suivait le club, mais en fait, on a profité d'une opportunité où le Sporting avait besoin de liquidité, etc., ce qui a facilité le transfert de Rafinha parce que il aurait été plus dur à obtenir. Et l'autre chose, et je pense que là-dessus, il y a une différence, et là où le club progresse, c'est qu'en quantité, l'effectif est plus riche. C'est-à-dire que, on prend l'exemple de Rafinha, s'il est pas bon, tu peux mettre, Bourigeaud, tu peux mettre Flavienté, tu peux mettre, on a un petit jeune à Beau. Tu vois, en fait, il y a des solutions. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que ces gars-là, sur ces postes déliés, qui ont tout le temps besoin de prouver pour avoir sa place de titulaire, ça aide le club, d'une façon générale. Parce que, tu vois, en début de saison.
Ouais, ils sont pas dans le confort,
en début de saison, il a pas été bon. Tant pis, il a coûté 25 millions, il a chauffé le banc. Et ça, si ça permet à l'effectif d'avoir le meilleur résultat, c'est parfait.
Dis-moi, mon petit Benjamin. Rennes, l'an dernier, gagne la Coupe de France, fait son parcours en Coupe d'Europe. Cette année, Rennes est en course pour le podium, est en demi-finale de Coupe de France.
Fait un beau parcours en Coupe d'Europe aussi, tu ne l'as pas dit.
Non, là, justement, je ne l'ai pas dit. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on doit désormais, à partir de ce soir, considérer Rennes comme un cadre du football français, au même titre que des clubs qui sont régulièrement là en Coupe d'Europe, des titres, je sais pas moi, allons-y, au même titre que Lyon, que Marseille, j'en sais rien, allons-y.
Rennes, Bordeaux.
Bordeaux.
Bien sûr que c'est au-dessus de
Saint-Étienne. C'est au-dessus de Saint-Étienne.
Ça travaille mieux qu'à Saint-Étienne, ça travaille mieux qu'à Bordeaux. Après, en termes de budget, malheureusement, Lyon est au-dessus. Donc Lyon est installé.
Marseille aussi, Monaco aussi.
Exact. Donc pour l'instant, ils sont un petit peu en retrait par rapport
budget,
à ces clubs-là. Non, mais ils sont en retrait par rapport à ces clubs-là.
C'est le mais en termes de performance,
Le standing du club n'est pas encore comme l'Olympique de Marseille, comme l'Olympique Lyonnais, comme l'AS Monaco, comme le Paris Saint-Germain. Mais par contre, c'est sûr que Lille commence à rattraper ce wagon-là, Rennes commence à rattraper ce wagon-là, et c'est bien. Et de toute façon, on le dit souvent avec Daniel, là, c'est Kevin qui est là, mais Kevin, il va penser comme nous, c'est que plus il y a des clubs qui seront d'autant plus forts en Ligue 1 et pas que deux ou trois, s'il y en a quatre ou cinq qui travaillent bien, six, eh ben forcément le niveau au d'un moment, même si en bas ça reste catastrophique sur les trois quarts des équipes, si t'as six clubs qui travaillent bien, eh ben c'est bien pour la notoriété du football français.
Ouais, parce que maintenant il reste à Saint-Etienne, quand vous les avez cités, à Bordeaux.
Ouais, mais eux, on désespère un peu quand même.
Oui, non, mais tu vois, c'est ça qu'il faudrait. Ouais. Il faudrait qu'il y ait 8, oui, non, 9 non. équipes, vraiment, on va dire, la première partie de tableau, qui soient voilà, tous les ouais. week-ends à poser des difficultés Exactement. Au PSG, à Marseille, à Lyon. Et en tout cas, cette saison, c'est plus difficile.
Bah, Benjamin, t'en penses quoi, toi ouais.
Bah pour te répondre, alors deux choses. Déjà, Rennes est encore en Coupe d'Europe, mais c'est la réserve. C'est les 8-19, ils sont en Youth League. Ils jouent demain contre Bruges. Donc voilà, je tiens à le dire parce que.
Contre Bruges, on va suivre.
Oh, putain, ouais, je suis là, je vais le regarder. Je peux te dire.
T'aurais pas dû lui dire
et
ça.
Et là, Riolo et Diaz, ils vont être mal hein, si Rennes gagne. Hein.
Donc, mais on en rigole. Mais tu vois, c'est bien pour les U19. C'est la première fois qu'ils sont en Coupe d'Europe et qu'ils soient encore. Ils jouent demain. Donc, c'est, voilà, faut le dire. Est-ce que Rennes, c'est un cadre du foot français? Non, surtout pas. Surtout pas. Moi, je pense que l'équilibre, il est très fragile. Pour moi, il tenait à deux hommes qui étaient le président et l'entraîneur. Il n'y en a plus qu'un des deux qui est là. Donc, faut se calmer. On est capable à tout moment de reprendre Ruello et Montagny sur le banc et Rennes ne sera plus un cadre du foot français à ce moment-là. Donc, non.
T'es dur avec Montagny.
Ruello, c'était mieux que Patrick Lelay. Hein.
Il est dur avec Montagny. Non, mais dis-moi pourquoi il est dur avec Montagny.
Non, mais bon, Montagny, il a peut-être pas eu sa meilleure période à Rennes, mais on peut pas dire que c'est un mauvais entraîneur.
Non, mais c'est vrai qu'il l'a eu sa bonne période, en fait.
Oui, c'est ça.
En Espagne, c'était pas mal.
Ah, en Espagne, oui. Oui, en fait, on s'est bien renseigné comment ça fonctionnait en Espagne. Oui,
exactement.
S'il monte avec
Lens. Franchement, à Bollard, il s'éclate le spectacle. Alors, c'est bien, la montée, tant mieux pour Lens.
Il y a eu un 0-0.
Non, mais c'est pas le premier match. Écoutez, ils parlent avec les joueurs. Alors, aujourd'hui, ils peuvent pas le dire ouvertement parce que c'est leur entraîneur, sinon les mecs, ils vont plus jouer. Mais c'est pas l'éclat total quand même.
Voilà, Lens. Donc, le club travaille bien dans sa structure avec l'organigramme actuel. Mais calmons-nous. Je pense qu'on est encore un club français. On est encore un tout petit en Europe, clairement, un minuscule club français en Europe. Et avec la caractéristique de savoir se sublimer quand on joue un gros. On l'a vu l'année dernière.
Tu fais ton modeste, Benjamin.
Non, c'est... mais regarde, contre le Bétis, on a fait un super match. Mais par exemple, si tu prends les phases de poule avant, alors qu'on jouait des équipes vraiment moyennes, on est passé ric-rac. Cette année, on jouait contre des équipes qui étaient à notre portée, on a été nullissimes.
Tu as complètement raison, hein, Benjamin. Parce que c'est vrai qu'on aura attendu beaucoup mieux de Rennes en Coupe d'Europe, oui. Sans parler forcément de finir premier de la poule. Mais vraiment, il y a eu des prestations footballistiques qui étaient difficiles. Après, on va en parler.
Mais ça, c'est pas un problème de club, Kevin.
Attends, Kevin,
c'est pas un problème de club sur la Coupe d'Europe, parce que maintenant, ça s'explique aussi parce qu'ils souffraient en championnat cette période-là.
Oui, c'est vrai.
Et que malheureusement, ça arrive vite. Ils ont fait beaucoup de changements. Alors, c'est pas trouver des circonstances atténuantes.
Six titulaires qui sont partis.
Oui,
c'est énorme.
Et que des cadres qui sont restés, des joueurs qui ont été excellents l'année dernière, avaient un niveau médiocre au début, parce que soit physiquement, ils étaient pas bien, soit ils sont endormis trop dans le confort et du mal à se remettre en question. Et je pense qu'il y en a certains aussi, et ça c'est à l'intérieur du club que ça se disait, parce que moi je j'invente rien. Au quotidien, quand tu vois certains mecs travailler, arriver aux entraînements, arriver un petit peu sur la pointe des pieds en se disant aujourd'hui on va gérer, c'est que tu commences à changer de statut et la tête, elle a du mal à passer la porte. Et c'était le cas au début de saison. Et il y a eu des choix assez forts de Stéphane d'un moment. Et malheureusement, ça leur a coûté l'Europa League. Allez, on est bien plat. T'en as commenté des matchs, ouais. Moi aussi. J'ai commenté quasiment tous les matchs de Rennes en Ligue Europa. C'était catastrophique. Catastrophique.
Ils ont réussi à perdre deux fois contre Cluj.
Alors que si tu mets Rennes.
Attention au Cluj.
Si
tu mets Rennes aujourd'hui, même pas aujourd'hui, à partir de novembre-décembre, si Rennes avait commencé sa campagne à ce niveau-là, mais tous les jours, ils sortaient de la poule. Tous les jours.
Ouais, je suis d'accord.
Benjamin!
Vas-y, dis-moi, Gilbert.
Bon, on va conclure hein, avec toi. En plus, maintenant, t'as un stade qui a un nom, parce qu'avant, stade de l'Orient, c'était pas un nom. Maintenant, t'as un stade qui a un nom.
Attends, franchement,
c'est pas un nom, stade de la route de l'Orient.
Moi, c'est des souvenirs. Moi, j'adore le stade.
Et en plus, t'as une ambiance. Maintenant, il y a un public de dingue dans ce stade. Alors qu'avant, c'était le fameux lounge rennais dont on se moquait dans l'after.
Ouais, mais il y a
Rennes, c'est une des plus belles ambiances de France aujourd'hui. Hein.
C'est vrai. Ah, oui. Je te confirme.
pour votre culture générale, messieurs, sachez que la route de l'Orient, c'est aussi un quartier à Rennes. Donc c'est pas seulement le nom de la ville.
Il faut changer le nom du quartier aussi alors.
Donc tu vois.
Appelez-le le Roison quartier.
Et c'est le stade. Tu vas à l'Orient. La route qui est tout droit.
Salut Benjamin.
Salut Benjamin.
Merci les gars, plaisir.
Bonne soirée.
À bientôt.
Eric est avec nous, supporter Rennes lui aussi. Salut Eric.
Salut à toute l'équipe.
Salut Eric. Salut Eric.
Ça va et toi?
Tu vis pas dans le quartier de la route de l'Orient.
Ça me fait plaisir de vous entendre. J'ai l'impression de voir match de Ligue des Champions quand je vous entends.
Mais attends, moi je suis très content de
voir un match de Ligue des Champions, c'est-à-dire.
Ouais, j'ai l'impression que vous avez pris énormément de plaisir et que.
Là, sur le match de ce soir, on ne peut pas dire en plus, c'était l'extase.
Surtout Gilbert.
Parce qu'on n'a pas dû regarder le même match, je pense.
Ce qui compte en Coupe de France, c'est la qualification.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
J'entends bien, mais on est d'accord.
Et puis, je sais pas si t'as entendu, mais Gilbert a répété qu'on parlait de Rennes dans sa globalité de cette dernière semaine. Mais bon.
J'entends bien, mais là, quand même, offensivement, sur ce type de match, c'est là où on doit se remettre en confiance. Niang.
Au moins, tu t'es créé des occasions.
Il est inexistant.
Et il avait pas envie.
On sera d'accord pour dire qu'il a bien tiré le pénalty, Eric.
Ah bah oui, heureusement que le gardien a pas la main ferme, il a que 18 ans. Mais tu mets un autre gardien, peut-être qu'il le met pas.
Niang, il t'a mis 8 buts depuis le début du championnat. Ça va.
Ah ouais, c'est énorme, 8 buts. Hein.
Ah bah 8 buts, s'il continue sur sa lancée, il va finir la saison peut-être à 15. C'est une bonne saison pour un attaquant.
Saison. Très belle saison.
Bah ouais. Enfin, moi, je veux pas faire le défenseur de toute la soirée, non, les mecs,
Après, je pense qu'Eric, là,
t'es. Dis pas que tu prends du plaisir depuis un moment à regarder le Stade Rennais, quand même.
Je vais pas te mentir, je ne regarde pas tous les matchs de A à Z du Stade Rennais. Mais vous êtes sur une dynamique, les mecs. Oh, t'es troisième du championnat, t'es en demi-finale de Coupe de France. Mais là, vous venez pleurer.
Mais aujourd'hui, c'est pas parce que t'es troisième que tu vas prendre un gros plaisir à regarder tes matchs.
Non, mais moi.
C'est parce que la Ligue 1 est faible, tout simplement.
Bon, après, là, je pense que je te trouve un peu sévère parce que bon, on en voit. Alors peut-être pas tous les matchs comme toi, si tu les regardes tous, mais moi, j'ai vu plusieurs fois Rennes avoir beaucoup de maîtrise des matchs à domicile, même des matchs à l'extérieur. C'est une équipe qui va de l'avant. Il y a des joueurs qui seraient.
C'était quand le dernier?
Je vais te prendre juste la défaite. Que j'ai en tête, la défaite contre Marseille.
D'accord.
Où tout le monde a dit.
Votre deuxième mi-temps.
Ouais, la première était moyenne, mais la deuxième était très bonne, et qu'ils doivent jamais perdre ce match, et que ça fait partie des belles affiches de notre championnat, et je trouve que Rennes, ce soir-là, était à la hauteur. Voilà.
Donc, après, le résultat. Rennes-Marseille, ça fait combien de temps, s'il te plaît?
Rennes-Marseille, ça fait un mois.
On est d'accord. Ça fait un mois qu'on est inexistant.
Non, mais je te parle parce que après, tu
gagnes 5-4 à Angers dans un match un peu dingue. Tu bats Nantes dans un match un peu dingue. T'as existé quand même ces jours-là, non?
Ouais, mais offensivement, je trouve qu'on a du mal.
Ouais, c'est à marqué 8 buts de match. C'est vrai qu'offensivement, c'était dur.
Mais regarde les 8 buts. C'est pas les mêmes buteurs. C'est pas possible dans ce que tu dis.
Bon, écoute, je pense qu'Eric, t'es resté surtout focalisé sur le dernier match qui était pas bon, hein, de Rennes contre Brest, là, le dernier match en championnat à domicile.
Moi, je trouve que ça traîne depuis un petit moment, c'est dommage.
Mais c'est possible aussi que, comme tu dis, l'équipe a du mal à repartir.
Mes propos, hein, je dis pas que le Stade Rennais est nul, je dis juste qu'offensivement, on n'arrive plus à avoir nos attaquants.
Il y a des manques, ouais, mais bon.
Non, mais attends, moi j'entends cet argument, il n'y a pas de problème. Mais faut faire une photographie quand même de là où tu en es début février.
Après, tu sais, Eric, je peux comprendre ce que tu dis, c'est-à-dire que tu aimerais bien que Mbaye Niang ou que Ounou ce soir soit plus déterminé, comme j'ai dit, devant le but, et qu'il marque but sur but, parce que tu sais que dans cette Ligue 1, il suffit d'avoir un ou deux buteurs qui te mettent les occasions au fond, et après être bien en place défensivement. Maintenant, il y a quand même du spectacle. Tu sais, on est les premiers ici à l'after et je pense qu'on a raison de réclamer du spectacle, des émotions, des rebondissements. Ça, on peut pas lui enlever à Stéphane et à son équipe. Tu vois, c'est quand même une équipe qui certes prend des buts. Ils ont quand même marqué hein, ce soir. Ils en mettent 3. Gilbert a dit, t'en as mis 9 en 2 matchs sur 10 jours. Ouais, 8 en 2 matchs sur 10 jours. Donc franchement, on peut pas dire que vous êtes complètement inexistant offensivement. Après, est-ce que l'équipe manque un peu de sérénité, de stabilité collective pour pouvoir un peu mieux gérer les matchs et remporter des victoires plus probantes, Ça, on peut l'entendre.
Moi, mais j'ai l'impression qu'on est dans le dur à chaque fois. On gagne, mais on est dans le dur.
Il y a peu de marge, hein, y a peu d'écart entre. Regarde le classement de Ligue 1, tu vas tout comprendre.
Non, mais c'est ça.
À partir du moment où tu as 6 points entre 10 équipes, bah forcément, les équipes, elles sont très proches. Et même quand tu joues Toulouse, regarde Toulouse qui s'est déplacé à Marseille, ils ont réussi à créer des problèmes. Donc, y a peu de marge à part le PSG. Non, mais toutes les équipes bataillent.
Hein. Eric, tu as une base qui est solide à Rennes. Alors après, je te.
Mais je ne vous dis pas le contraire. En aucun cas, je critique l'équipe. Voilà. Non, mais je dis qu'offensivement, sur ce type de match, on aurait dû se faire plaisir et reprendre de la confiance pour enchaîner le championnat.
Oui, mais sauf que ça, là, tu te trompes déjà d'entrée, et c'est plus facile à le dire après, mais avant le coup, et là, c'est mon expérience qui parle, c'est que tu sais très bien que sur ce genre de match, c'est pas là que tu le fais le plus plaisir, hein, parce que t'as une équipe qui est en face, qui va essayer de bien défendre pour pas prendre une grosse raclée, donc les matchs vont être assez serrés, en général, ça manque de rythme, parce que l'équipe amateur a en aucun cas envie que le rythme s'élève, donc ils vont essayer de le casser aussi. En plus, le scénario fait que Rennes arrive à marquer assez vite, donc ça rassure les joueurs pros et se disent bon, on n'a pas besoin d'en faire un peu plus. Donc en effet, ça touche les joueurs offensifs et c'est souvent là que tu vois pas le plus de spectacle dans ces matchs-là. Donc l'essentiel a été fait soir. Après, moi là où je te rejoins, c'est sur les matchs d'avant, en effet, où on a tendance à regarder le résultat et se dire bon, Rennes ils sont troisième championnat, c'est très bien, ils font une belle saison. Il y a des manques actuellement, ça, voilà. Il y a une base qui est quand même solide, défensive, et on parlait d'une colonne vertébrale qui tenait la route, encore avec des milieux de terrain, la charnière derrière, le gardien, c'est important. Après, les joueurs offensifs, c'est à eux de trouver la clé avec leur entraîneur. Ils sont peut-être dans le dur actuellement. Écoute, ça va peut-être évoluer, mais comme et Kevin l'a bien dit, c'est que il y a très peu de marge en fait entre des équipes qui sont 10e aujourd'hui du classement ou 12e et Rennes qui est 3e. Donc au bout d'un moment, s'ils veulent rester 3e, il faudra aussi qu'il y ait un déclic sur les joueurs offensifs.
Hein. Ouais, on va voir, on a des matchs clés, on joue des bas de tableau, donc des petits clubs pour moi, on va voir si justement on est capable de faire la différence.
Merci en tout cas.
Merci Eric.
Salut Eric.
Allez, ciao ciao.
Salut Eric, à bientôt. J'ai quelques réactions là sur le hashtag RMC Live qui vont nous permettre de parler de l'étang. Déjà, j'ai Othello qui nous dit « Ouais, c'est vrai, le stade de la route de Lorient, c'est comme si Bollard s'appelait le stade de la route de Lille. » Voilà, tu vois. Ou le Parc Ouel, le stade de la route de Saint-Etienne. C'est vrai que ça passerait pas.
Ouais, c'est vrai que c'est
moins.
Bah oui, mais c'est le nom de la route.
Bon, après, les Bretons, ils sont...
Alors, un petit message de Petit Go qui va nous amener à parler de l'étang. Petit Go dit... Moi, je crois que l'actionnaire de Rennes n'a pas vraiment envie de faire partie des gros de la Ligue 1. Sinon, l'étang sera encore là, dit Petit Go. Alors, ce qui va nous permettre de parler quand même de l'étang, parce que le mercato dont on parlait, les Rafinha et compagnie, c'est quand même lui, hein, je veux dire, en grande partie. Et là, on a assisté quand même à un truc assez extraordinaire.
Avec lui, là, c'est le recrutement, Rafinha, parce que ce que disait Kevin, c'était intéressant de dire qu'il avait plus brillé à Guimarães avant, c'est que la cellule de recrutement a bien aussi bossé sur ce profil-là.
Supervisé par l'étang. Enfin, je veux dire,
c'est lui qui valide, dans tous les cas, c'est lui le président.
On nous dit... Il y a un truc que je comprends pas.
Attends, parce que je faisais une introduction afin d'amener le débat et de demander aux supporters rennais, appelez-nous, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé avec l'étang? Est-ce que vous êtes contrarié par ce qui s'est passé avec l'étang? On va en débattre dans quelques instants. Et ensuite, vous saurez tout sur le match entre Lyon et Marseille de demain soir, sans oublier les réactions du jour du PSG à une semaine maintenant de Dortmund-Paris, parce que c'est dans une semaine.
Hein. Ah bah oui. Bah
mardi prochain,
il sera. Là, on rentre dans la mission Dortmund.
Mardi prochain, 23h21, t'es après le match dans la tribune avec ton bonnet, dans l'after.
Avec mon bonnet?
Ouais, parce qu'il prévoit froid quand même. J'ai regardé la météo.
Vous êtes vraiment vous êtes des hommes de studio d'intérieur. Vous vous plaignez, il y a un peu de vent. Et Kevin, c'est incroyable ça.
Il ne peut pas mettre de bonnet, t'as vu la coupe? T'as vu la classe?
Déjà, et puis moi je suis un homme d'extérieur. Il pleut, il fait moins 5, j'en ai rien à faire moi. Je te la fais l'émission.
T'es pas un frileux, toi.
Je vais te la faire tout seul l'émission, tu vas voir l'audience qu'on va faire.
En tout cas, on y sera mardi prochain, donc n'oubliez pas pour... ce match d'être avec nous. Soirée spéciale, mardi prochain, 20h minuit, en direct de Dortmund. On va peut-être avoir un invité en direct de Belfort, là. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait notre petite pub ou est-ce qu'on attend?
Je vois.
Allez, on y va. On revient tout de suite avec éventuellement un invité. À tout de suite dans l'after.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Jérôme Rantel, avec Kevin Diaz, bien sûr. Dortmund, PSG, c'est dans une semaine, je vous l'ai dit. Et vous le savez, tous les soirs dans l'after, qu'est-ce qu'on fait ? On vous offre la possibilité de gagner vos places pour le match de la semaine prochaine. On vous emmène, le transport est pris en charge, la place au stade pour Dortmund-PSG. Les dernières qui restent, elles sont chez nous, hein, sur RMC. Donc c'est très simple, si vous voulez participer, vous envoyez foot par SMS au 732-16 dès maintenant. Vous envoyez foot par SMS au 732-16 dès maintenant. Il y aura un potentiel gagnant tiré au sort. Il sera avec nous avant minuit. Il devra choisir sa place dans la tribune. Et peut-être qu'il gagnera cette place ou pas. Hier il a gagné, hein, notre candidat. Donc peut-être que ce soir aussi. Tentez votre chance, vous envoyez foot.
Il va se tromper.
Par SMS au 732-16. Bien sûr. Sur RMC Sport News, vous avez vu une magnifique photo de Jérôme Bretagne avec un bonnet. Ceux qui nous écoutent sur RMC, vous ne l'avez pas vu. C'est normal. Je vous laisse imaginer la scène. C'est pas joli, joli.
Quoi, c'est pas joli? C'est un bonnet. Sans déconner. C'est pas joli. Bon, pourquoi c'est pas joli, joli?
J'en arrive à notre ami.
Espèce de jaloux parce que t'as pas de cheveux.
Non, disons que c'est le bonnet qui est pourri.
Le bonnet.
C'est pas une question de cheveux, parce que quand t'as un bonnet, tu vois pas les cheveux.
Le bonnet, on peut citer la marque? Non.
Je sais pas ce que c'est, en plus.
C'est un bonnet, quoi.
On reconnaît pas le bonnet, là?
Ah bon?
Il y avait le même.
Ah ouais?
Bon, bref, on s'en fout.
Mais tu sais, la mode, ils connaissent pas ici.
Les temps.
Oui.
Virés. Alors. Ce qui s'est passé en coulisses, on a différentes versions. Hein. Alors, il y a eu la version un peu schématique, mais sans doute trop schématique, de Stéphane a eu la peau de l'étang. A priori, c'est quand même pas vraiment comme ça que ça s'est fait.
Un petit peu.
Il y a aussi eu ce qui remonte de la part de la famille Pinault, à savoir qu'en fait, ils avaient le sentiment que l'étang prenait des décisions sans les aviser. En gros, mon coco, t'es pas le propriétaire du club, ça reste nous. Donc quand tu te sépares de certaines personnes pour les remplacer par d'autres, quand même préviens l'actionnaire, voilà.
Ouais.
Donc il y a eu ça aussi. On avait l'impression que chez les Pinault, qu'on n'avait plus trop la main mise sur le club, quoi, en quelque sorte, et qu'on n'était plus aux manettes.
Tu l'as toujours la main mise sur le club, donc ça c'est une fausse excuse.
Et tout ça cumulé, les rapports compliqués avec Stéphane, plus
ouais,
ça.
Ouais, mais ça, en fait, ce que tu résumes, excuse-moi Kevin, mais ce que tu résumes, c'est à l'arrivée une guerre d'ego, et c'est ce qu'on a dit depuis le début.
C'est ça.
Parce que t'as Stéphane d'un côté qui pouvait plus voir l'étang et l'inverse aussi, voilà. Donc à l'arrivée, l'étang a quand même pris sur lui, parce que si vraiment ça avait été ce rapport-là de l'étang envers Stéphane, je pense que la mauvaise période du début de saison, ce que je disais tout à l'heure, bah il aurait dégagé. Donc il a pas dégagé. Donc à l'arrivée, même s'il lui a mis un ultimatum au bout d'un moment de 3 matchs, il le dit encore Stéphane pour bien ressasser tout ça, tu vois, depuis le départ de l'étang, il a dit ouais, mais écoutez, moi j'avais 3 matchs, il m'avait laissé 3 matchs, si les résultats changeaient pas, j'étais dehors. Donc ça, c'était une façon de dire, oui, mais quand même, hein, il m'a mis une grosse pression. Bah oui, mais la pression, c'est logique. Les résultats n'étaient pas là. Donc, donc l'entente, bah, elle n'est pas au top. Mais c'est à l'actionnaire, dans ces cas-là, de mettre la main là-dedans et de se dire, et pas de subir les choses comme il reproche aujourd'hui à l'étang en disant, ah oh bah ouais, mais il prend des décisions en interne, il vire un tel et un tel, il nous demande pas la décision. Mais eux, ils ont qu'à y mettre le nez dedans.
Mais le problème, pourquoi, c'est qu'ils y connaissent rien.
Mais non, mais pourquoi t'as mis l'étang là? Pour qu'il s'occupe de tout.
Voilà.
Qu'il s'occupe.
Surtout qu'a priori, mis à part l'inimitié entre les deux, les résultats étaient là quand même.
Mais les résultats et le mode de fonctionnement de ce club.
On est, Coupe d'Europe,
tu es le premier à dire là, Rennes devient un des cadors de notre championnat en termes de résultats, en termes maintenant d'histoire parce qu'ils gagnent une coupe de France l'année dernière, donc ils redeviennent un club crédible. Ça fait 2 années de suite où ils font l'Europa League. Oui, c'est un club là, ils font demi-finale, ça fonctionne bien, ça a changé. Il y a des supporters qui s'y retrouvent complètement derrière cette équipe, et tant mieux. Il y a une ambiance incroyable au Roizen Park. Tout ça, c'est aussi lié au fait que Stéphane ait repris l'équipe et ça marche bien, au fait que l'étang l'ait mis là, et le mode de fonctionnement de l'étang, même s'il a viré Pierre-Paul ou Jacques, et ben à l'arrivée ça lui donne raison aujourd'hui. Alors il s'est trompé sur des transferts. Moi j'ai entendu aussi qu'on lui reprochait le recrutement d'un tel et d'un tel, les salaires d'un tel et d'un tel. Oui, mais tu peux te tromper quand t'es président. Par contre aussi, n'oubliez pas ce qui a bien marché. Et ça le problème, c'est que on met tout le négatif sur Stéphane, sur l'étang. Et moi ça me dérange un peu.
Bah, ce qui est quand même incompréhensible, c'est que d'après ce qu'on nous dit, bon, je pense qu'on, sans leur faire offense, les Pinault connaissent pas grand chose au football à proprement dit. Donc, ils ont mis le club dans les mains de quelqu'un, ils lui ont dit, allez, t'as pas carte blanche, mais presque, quoi. Fais de ce club ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un prétendant au top 5.
Comme ils ont toujours fait en plus.
Voilà. Le gars réussit la mission. Mais après, il utilise ses méthodes. Mais aujourd'hui, le football, c'est pas le monde de oui-oui. Le football, il faut être ferme. On connaît les agents, les intermédiaires, l'entourage des joueurs. Et j'en passe. Il faut être ferme aujourd'hui dans un club. Alors on me dit, ah oh oui, mais Létan, il était un peu autoritaire. Il a voulu bousculer un peu les habitudes. Il a viré des gens. Mais les gars, il y a qu'une seule chose qui compte aujourd'hui dans le football, c'est le résultat et la compétence. Quelqu'un qui est compétent et qui a des résultats, vous croyez pas que Mourinho, il est un peu autoritaire? Vous croyez pas que Mourinho, il est un peu on va dire pas dictateur, mais bon, vous croyez qu'il a un management comment? Aujourd'hui ce qui et Guardiola et etc. ce qui marche aujourd'hui dans le football, c'est l'autorité et l'efficacité, et il en avait. Maintenant, pour finir, il y a un truc que je comprends pas. On me dit, j'ai entendu. Alors il y a aujourd'hui dans un club, le plus important c'est l'entraîneur. Mais messieurs, réveillez-vous. Aujourd'hui dans un club moderne, le plus important c'est celui qui est directeur du sportif. Alors au Paris Saint-Germain, c'est Leonardo. À Marseille, on a l'impression que c'est un duo Villas-Boas avec un adjoint Zubizarreta. Mais à Rennes, j'ai l'impression quand même que le directeur du sportif c'était le président Olivier Létan. Donc peu importe le poste, il y a toujours un patron. Non mais peu importe le poste, adjoint, hein. Il y a toujours un patron. Moi j'ai l'impression qu'un bateau sans capitaine, non, mais ça va pas bien loin. Mais bon, on verra, il va falloir le remplacer en tout cas par quelqu'un de costaud.
On est d'accord que de toute façon et ça c'est l'expérience du foot qui est comme ça, et pour aussi l'avoir vécu avec des présidents, quand t'as un président fort, en général l'équipe qui est forte, c'est qu'il y a un président fort. Tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Tu peux avoir un président fort et malheureusement le sportif ne fonctionne pas, c'est déjà arrivé aussi. Mais là, tout était réuni. Et en effet, alors après, est-ce qu'on peut lui reprocher à l'étang, juste là, en étant complètement neutre, c'est par moment peut-être qu'à Rennes, en bousculant les choses, comme tu l'as dit, sans prendre de gants, peut-être que il passait pour donneur de leçons, ferme. De toute façon, c'est ce qui dégage. Je pense que Olivier Létang, il s'aime bien, tu vois. S'aime bien quand il se regarde le matin dans la glace, il se voit beau. Ouais. Et comme mais Stéphane. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un problème d'ego.
Oui.
C'est un problème d'ego.
Tu connais quelque chose.
Bien, exactement. C'est pas un défaut d'être sûr de soi. Alors après, attention.
Bon, le matin, comment ça se passe?
Non mais moi, là ça rayonne. Mais blague à part. Après
il y a juste, c'est un ancien joueur.
Oui, mais sauf qu'il y a
un
juste.
Il a toutes les qualités requises aujourd'hui. Tu sais, on dit, ah mais les clubs, il faut qu'ils trouvent un ancien joueur, un mec pour diriger le club qui en plus connaît donc la matière première qui reste quand même le terrain, et en plus qui a des capacités d'organisation. Alors les diplômes ou pas, mais en tout cas une expérience de vie qui fait que tu peux être le patron d'un club qui aujourd'hui sont quand même des entreprises assez structurées. Mais le mec, il a toutes les compétences. Ah oui, mais on me dit, il est autoritaire, encore une fois. Ah oui, mais bon, je pense que tous les chefs d'entreprise sont autoritaires. Et lui, c'est un chef d'entreprise, même si au-dessus de lui, il a un actionnaire. Cet actionnaire, il connaît pas la matière première. Il peut pas te dire, ah oui, mais
moi, excuse-moi, l'actionnaire, il me fait rire aujourd'hui. Alors, il me fait rire. Attention, respect avec la famille Pinault, qui depuis des années met beaucoup, beaucoup d'oseille. Et l'oseille, il est parti en fumée, hein, sur certains joueurs. On va pas refaire l'histoire du Stade Rennais, mais donc là, ils investissent encore. Là, c'était des bons choix. Mais après, au bout d'un moment, moi, j'avais l'impression que le Stade Rennais, c'était Olivier Létang. Et que si l'actionnaire, en effet.
Il faisait un peu de l'ombre à beaucoup de monde, en fait.
Ben oui, mais si l'actionnaire, il veut exister, mais parle dans la presse, viens au stade, viens avec Létang. Non, mais viens te montrer avec Létang au bord du terrain, viens, comme ça tu participes à la vie du club aussi, et on ne t'oublie pas, et on ne dit pas, déjà ils ont jamais été oubliés, mais s'ils avaient cette sensation-là qu'en effet Létang, il prenait le rôle de l'actionnaire, eh bien viens, montre-toi. T'as quand même assez d'oseille aujourd'hui avec tout ce que t'as injecté pour avoir ce rôle-là. Et si tu penses vraiment que Létang prend trop de place, des décisions sans nous demander, le père ou le fils Pinault, eh ben va le voir, tu lui dis, écoute Olivier, ça doit se passer comme ça, là on a été vexé, là ça va pas, là avec Stéphane ça va
bien
pas
sûr.
Viens, on y va, maintenant il y a l'année à faire, tu finis l'année, le sportif tu le laisses au top. Peut-être que pour repartir sur de bonnes bases, c'est pas possible, mais là tu peux pas trancher vif.
Dans la famille Pinault, c'est qui qu'on entendait le plus souvent?
Mais Salma.
J'aime le Stade Rennais.
Voilà.
Montre, si c'est, montre Salma de temps en temps.
Moi j'ai un conseil.
Que ça aura détendu Olivier Létang.
Moi j'ai un conseil pour les gens qui veulent investir dans le foot. Mais ne vous mêlez pas du sportif. Et quand le club va bien, faites un audit interne. Mais déjà des choix au mois de février dans un club qui travaille bien. Si vraiment la situation était si critique, Gilbert. Ben il lui demande de préparer la fin de saison et ensuite il le laisse partir à l'intersaison.
Ah, c'est ce qu'ils ont fait. Ils attendent la fin du mercato pour le virer. Hein.
Ouais, d'accord.
Alors qu'apparemment c'était dans les tuyaux déjà depuis quelques semaines.
Ouais, mais et après je comprends pas leur choix.
Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas et dans ces cas-là il faut qu'ils s'expriment.
Alors,
si la décision devait être radicale d'un coup, c'est qu'on ne sait pas tout. Et...
Ça, il doit y avoir une clause pour qu'il ne s'exprime pas. Arthur est avec nous au 32-16. Il veut donner son avis là, sur Olivier Létang et son départ. Salut Arthur.
Bonsoir messieurs. Bonsoir
salut Arthur.
Tout le monde.
Salut Arthur.
Est-ce que toi tu regrettes déjà Létang ou tu te dis finalement, peut-être qu'on peut continuer tranquillement sans lui? Quel est ton avis?
Oh, je regrette quand même. Je regrette quand même. On ne va pas se cacher. J'ai été touché par ce départ. Après il faut continuer hein. Il faut continuer tout de même, ça reste une personne en moins en plus. On a vu que il y a 32 personnes qui sont parties quand même sous sa coupelle, mais enfin ça reste quand même une forte personnalité qui pour moi va manquer au Stade Rennais. C'est quelqu'un qui a inculqué cette culture de la gagne. C'est une forte personnalité certes, mais moi j'ai aimé son exigence, j'ai aimé son professionnalisme, ce qui m'a inspiré au Stade Rennais durant ces deux années quasiment. Et sur le point du management autour de ses équipes, c'est vrai que ça a été compliqué, mais il était bien vu auprès des joueurs, il était bien vu auprès de beaucoup de personnes. Et malheureusement, voilà, je pense qu'on est rentré dans une guerre d'ego à la fin avec l'actionnaire M. Pinault. C'était une petite guerre. Voilà, on a bien vu qu'il prenait de la place. Et oui, je pense qu'il prenait un peu trop de place. Peut-être qu'il a voulu faire un petit peu comme Olas, vraiment s'appartenir un petit peu le club.
Lui, le club lui appartient.
Ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire que
il a voulu
se le faire un petit peu comme lui, sauf que le club lui appartient pas. Et c'est là que je pense que blesse parce que ça a gêné. Et je suis d'accord avec ce que vous dites.
L'actionnaire, Arthur, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Arthur, qu'est-ce que tu penses que
va
pouvoir faire le prochain président du Stade Rennais? À chaque décision qu'il va prendre, il va dire oui, mais attends, alors là, est-ce que je vais pas trop loin? Est-ce que ça va plaire en haut? Ou tu vois ce que je veux dire?
Les précédents déjà, c'était des proches de Pinault. Ruelo par exemple.
C'est un problème. Ça parce que là pour finir là-dessus, Gilbert, ça c'est un gros problème parce que là c'est vraiment un manque de culture foot de la part des actionnaires, parce que si tu remets ce genre de président, ça a pas fonctionné à Rennes. D'accord. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que, et Kevin le disait bien, en fait, il y a des rôles qui sont essentiels dans le foot aujourd'hui pour qu'un club de très haut niveau fonctionne bien. C'est que tu as l'entraîneur, qui a un rôle important, avec ses joueurs, mais au-dessus, tu as soit un directeur sportif fort, comme au PSG, Leonardo aujourd'hui, c'est lui le porte-parole.
Et ça a assez manqué.
Et exactement, ça a assez manqué parce que le président n'était pas assez fort. Là, tu n'avais pas de directeur sportif à Rennes. Tu n'avais pas de directeur sportif, mais tu avais un président fort, c'était Olivier Létang. Là, le fait de retirer Olivier Létang, si tu le remplaces, bien sûr qu'il est remplaçable. Personne n'est remplaçable. Donc, il est remplaçable. Tu vas lui mettre un président comme il y a eu Ruelo et puis j'en passe. Tu vois, de ce style-là, qui ne connaît pas grand-chose au football, qui va prendre la suite d'Olivier Létang. Le sportif, il marche bien, donc ça va durer un certain temps. Mais après, il va falloir prendre des décisions fortes. Et surtout, les joueurs. Parce que quand tu t'appelles Rennes, que tu brilles à Rennes, eh ben, c'est pas critiquer le Stade Rennais. C'est que quand tu brilles, t'as envie de passer un cap et de changer d'univers, de changer de galaxie, d'aller dans un grand club. Donc, quand t'as un président qui connaît pas grand chose au foot, il va te parler de quoi? Il va pas te parler de sportif, il va te parler financier. Il va te dire oui, les transferts, c'est ça. Et le joueur, il va avoir du mal à vraiment s'identifier au Stade Rennais. Et je pense que ça, Olivier Létang, cette relation qu'il a avec les joueurs, et c'est pour ça que ça a fait mal à beaucoup de joueurs, c'est qu'elle était top de ce côté-là, parce qu'il savait parler foot, il parlait vrai. Là, à qui vont parler les joueurs? Un président qui connaît pas le football, il n'y a pas de directeur sportif. À moins que l'actionnaire décide de prendre un président, comme c'était le cas à l'époque, qui connaît pas grand chose au foot, et de nommer un directeur sportif comme peut l'être Leonardo au Paris Saint-Germain. Mais ça, j'en doute aussi.
On conclura, les gars, avec cette petite phrase du soir de Julien Stéphan, lourde de sens. Donc, il parle du match, il est satisfait de la qualif et tout. C'est bien, c'est mérité, on va avoir une deuxième demi-finale. Et il conclut en disant: aujourd'hui, tout est positif au Stade Rennais. Voilà ce que dit Julien Stéphan ce soir. Dans quelques instants, Paris au programme, plus le match de demain soir. C'était entre Lyon aussi, et Marseille. On en retrouve tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Jérôme Rantel et avec Kevin Diaz, les gars, la Coupe de France continue demain avec un magnifique Lyon-Marseille. Alors que tous les dossiers, les photos abonnés sortent.
Ah oh ouais, bah celui-là, tu peux.
Oui, j'étais avec Baptiste Le Cap, là, un match. Strasbourg-Bordeaux, bon, on avait gagné, évidemment.
C'était quoi ce bonnet? Ah ouais, c'est un bonnet CA, ça.
Ouais, c'est de la qualité.
J'ai vu, je l'ai acheté pour moi, je l'ai acheté à mon fils.
Alors, revenons à nos.
La qualité CA, je suis pas
à
sûr.
À nos histoires. Ceux qui nous écoutent à la radio ne comprennent rien, donc n'en parlons pas. S'il vous plaît. Voilà, n'oubliez pas ça.
Ah, mais attends.
L'after.
Non, mais d'accord, mais alors pourquoi t'as parlé de mon bonnet tout à l'heure, là?
Je n'ai pas pu m'empêcher.
Ouais.
Lyon a-t-il plus à perdre que Marseille demain? Rudy Garcia a répondu à cette question et ensuite vous donnerez votre avis, les gars. On écoute tout de suite.
Je sais pas, je me pose pas la question du match comme ça. C'est un match de gala, c'est un grand match. C'est voilà, deux clubs prestigieux du football français. Et encore une fois, on a l'avantage du terrain. Donc il faut faire parler ça. Il faut qu'on démontre beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. On est très très motivés. Après, je pense qu'il faut l'aborder aussi avec humilité. Parce que ils sont mieux que nous cette saison pour l'instant, même si j'oublie pas que on est les seuls avec le Paris Saint-Germain à être encore qualifiés dans les quatre compétitions.
Oh les mecs.
Bah, il a raison,
c'est leur com. Franchement, c'est la cour des miracles. Heureusement, quatre compétitions, mais quelle connerie déjà en championnat. Bien sûr que tu vas être qualifié jusqu'au bout. T'as 38 journées à faire. Donc arrêtez de me sortir t'es en finale de la Coupe de la Ligue. Très bien. Ça fait depuis 2012 dans ce club, il n'y a pas eu une victoire. Au bout d'un moment, arrêtez les conneries. Garcia, qui vient d'arriver, mais c'était le même discours quand il était à Marseille. Aulas, ça fait des mois et des années qu'il nous répète la même chose. On est bien financièrement, on est bien. Oh, non, mais on joue l'ogre PSG. Oh, on peut pas rivaliser avec le PSG. Il y a trop de différences. Et puis voilà. Et puis demain, si jamais ça se passe mal, il va trouver une excuse parce que l'accumulation des matchs, parce que, bah, tu sais, ils peuvent pas jouer sur tous les tableaux, les pauvres. Hein. Ils sont qualifiés. T'imagines, on va arriver à les plaindre. Arrêtez de vous retirer la pression, de faire semblant de vous retirer la pression, parce que la pression sur Lyon, tu me posais la question, la pression, elle est énorme sur Lyon. Surtout la période actuelle. En championnat, ils sont largués. Donc c'est un miracle s'ils finissent troisième, et je pense qu'ils finiront pas troisième. Mais bon, là on part dans des, ouais. On verra ce qui se passera. Mais on a des gros doutes quand même.
Non mais qui le disent là, t'as complètement raison, Jérôme. Mais qui le disent ça? Pourquoi pas? Si
ils disent quoi?
Quand bah, qu'ils disent qu'on est sur les quatre compétitions. Mais pourquoi ils ajouteraient pas aussi? Mais bon, ce qui peut être normal puisqu'on est le deuxième meilleur budget avec le Paris Saint-Germain.
Non mais ça y a rien normal. Normal dans ce club. Mais c'est un miracle.
Dans ce cas-là, mais quand tu dénonces les choses qui sont bien, faut aussi dire quand ça va pas. Bon, attendez, c'est pas normal qu'on soit cinquième avec le budget qu'on a, par exemple. Dans ce cas-là, va au bout de ta démarche. Donc, c'est bien sûr facile, mais je pense qu'il le sait très bien. En plus, malheureusement pour lui, il y a une pression positive pour l'OM. Qui va jouer à Lyon, qui a pas grand chose à perdre parce qu'il leur manque un ou deux cadres et que Lyon, ils le savent, c'est eux qui ont, comme on dit, caca culotte parce que là, si Garcia, il se fait éliminer à domicile, on se rappelle du dernier qui s'est fait éliminer en Coupe de France, à domicile à Lyon, ce qui lui est arrivé. Pep, Genesio.
Oui, il a dégagé derrière.
Il s'est fait éliminer à domicile contre Rennes, derrière, bon, il est parti en Chine.
Oui. Bref, vas-y.
Voilà. Donc je dis que je pense qu'il va avoir la pression. Ces joueurs, moi je pense que, comme j'ai dit hier, les joueurs, eux, ils sont concentrés sur leur match, peut-être un peu moins, mais en tout cas, je pense que lui, Aulas, et pas mal de gens au niveau du comité de direction de Lyon savent que demain, il faut absolument gagner. Et bien sûr, les supporters aussi ne veulent surtout pas perdre ce match et perdre la face à l'OM, ce qui est normal.
Ce qui est, c'est sûr que si tu vois le toutes les compétitions, comme il dit, je pense que ce match demain, c'est le numéro 4 dans les objectifs d'Olympique Lyonnais.
Ouais.
Vraiment. Il y a une finale de Coupe de la Ligue, bien sûr que ça prend le dessus sur un quart de finale, même à domicile contre Marseille.
Mais c'est contre le PSG, la finale.
Oui, mais quand même, c'est une finale. Donc là, t'as un match à gagner, même si c'est Paris. Rennes l'a fait l'année dernière, on l'a dit. Donc tout est possible. La Champions League, bien sûr que ça reste prioritaire, même si tu joues la Juve et que t'as très peu de chances de passer, mais on sait jamais.
Et le championnat, c'est une priorité. Et Jean-Michel Aulas, il nous le dit depuis le début de l'année, qu'il a toujours en point de mire la troisième place, parce que économiquement parlant, parce que la Ligue des Champions, pour attirer des joueurs, garder des joueurs, il y a pas mieux. C'est autre chose que l'Europa League. Donc, bien sûr que les trois autres compétitions sont au-dessus de ce match de demain. Mais le contexte actuel fait cette dynamique qui est horrible. Perdre à Nice en championnat, après avoir gagné en Coupe de France dans le dur, mais il l'avait fait, faire un vieux match nul à domicile où il s'est rien passé contre Amiens, perdre au Parc. Alors certains vont te dire, ouais, ils ont réagi à 3-0. Oui, bah, d'accord, ok. Ouais,
bah, il peut y avoir. Dire que si demain ils perdent encore.
Mais la dynamique, elle est terrible. Oui, parce qu'à l'arrivée, ces clubs-là, quand t'as beaucoup de pression à tous les matchs, parce que ces clubs-là, comme Paris, comme Marseille, quand tu joues, quand tu perds, ça fait du bruit. Ça fait plus de bruit à Paris, à Marseille. Mais quand même, Lyon commence à avoir cette aura-là. Quand ils perdent, tout le monde en parle. Donc là, la série, elle est vraiment pas bonne. Si demain, ils prennent une claque, contre une équipe de Marseille où c'est pas la priorité, parce que la priorité, là, eux, Marseille, pour de bon, c'est la deuxième place du championnat. Ils sont bien partis pour. En plus, ils sont amoindris demain. Bien sûr que la pression, elle est énorme, et que si tu gagnes pas demain à Lyon, mais va remobiliser tes troupes, alors que la Champions League arrive dans 15 jours derrière, avec des matchs où tu vas aller à Rennes, tu vas aller à Lille, tu vas recevoir Saint-Etienne, le derby. Mais tu te rends compte, ça va être horrible à vivre.
Si tu perds demain, c'est clairement un camouflet. Parce que tu l'as dit, contre Paris, la finale, ils sont pas favoris. La finale de la Coupe de la Ligue.
Ils peuvent tout perdre en...
Contre la Juve, ils sont pas favoris. Donc s'ils gagnent, c'est un exploit. Par contre, si tu perds à domicile contre Marseille, même s'ils sont deuxièmes, tout le monde sait que c'est pas parce que Marseille est deuxième que c'est une équipe qui est imbattable dans cette Ligue 1 ou dans ce championnat de France, et en coupe non plus. On l'a vu, hein, les difficultés qu'ont eu les Marseillais contre des clubs amateurs. Donc voilà,
les les trois prochaines semaines de Lyon, c'est là que ça joue.
Ah, c'est clair.
Je te le dis, vu les matchs qu'il y a, c'est là. À partir de demain, maintenant tu mets.
Là, ça dit que Garcia restera.
Oui,
quoi qu'il arrive.
Mais
j'aimerais bien voir. Il perd demain. Il est éliminé dans les trois autres compétitions.
Mais même s'il
ne reste plus que le championnat, même s'il n'est pas en Ligue des Champions.
Kevin, même s'il gagne demain. C'est même pas ça. Demain, ça va rien changer. Il faut gagner.
Oui,
parce que c'est important pour repartir sur une bonne dynamique. Bah, à l'arrivée, t'auras rien gagné. Tu seras qualifié en demi-finale de Coupe de France, sachant que t'as encore des belles équipes, qui sont peut-être meilleures que toi actuellement. Donc, t'as très peu de chances de la gagner, la Coupe de France. Par contre, je te dis les trois prochaines semaines, parce qu'en effet, t'as la double confrontation, il y a un mois, on va dire, contre la Juve. Donc, t'as la Ligue des Champions, ça se trouve, tu vas être dehors. Et t'as tous ces matchs de championnat qui s'enchaînent contre des équipes. Voilà, si tu fais un faux pas à Lille, tu fais un faux pas à Rennes, ou contre, à domicile, contre Saint-Etienne sur le derby. Mais la troisième place, mais même plus en rêve, hein. Ouais. Là, tu vas jouer la huitième place, oui.
Tiens, on a David avec nous, il est supporter marseillais, David. Alors lui, il est plutôt détendu du coup, avant d'aller à Lyon, David. Salut David.
Ouais, salut les gars, ça va ?
Salut David. Ça va et toi ?
Ouais, ça va, ouais. Ben ouais, plutôt détendu en fait, il y a 10 minutes, mais en fait, finalement, que vous m'en parlez, c'est vrai qu'il faut les taper, ces lumières.
Ouais, non, tu veux les mettre dans le trou ?
Ouais, en fait, j'aimerais vraiment bien les enfoncer. En fait, j'aimerais bien les enfoncer parce que les propos de Garcia, ils commencent vraiment à m'énerver. C'est-à-dire que lui, vraiment, alors, niveau com, il est bidon, mais bidon de ce bidon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il arrive à camoufler les lacunes de ses équipes derrière des phrases ou des choses un peu débiles.
Bah en fait, il parle pas de terrain, quoi. Donc,
exactement, il parle jamais de ballon, ce mec-là.
Ah oui.
Il ne parle pas ballon.
Bon, vous êtes un peu dur avec lui. Cette année, je l'ai entendu sur quelques conférences quand même.
Ah oui.
Tenter d'expliquer pourquoi.
Mais dans le bureau avec Jean-Michel Aulas, parce qu'apparemment, c'est un génie tactiquement.
Non,
donc, c'est là que tu l'as entendu.
Non, mais des fois, les gars, franchement.
Oui, c'est un peu rapide.
Bon. C'est un peu dur, les gars, parce que franchement, saison, il a tenté d'expliquer pourquoi ça n'avait pas marché, pourquoi ses joueurs n'avaient peut-être pas été assez bons dans l'intensité.
Il n'y aura pas Benedetto demain, David?
Alors, il n'y a pas Benedetto, il n'y a pas ma vie, il n'y a pas Caleta.
Oui, exactement.
Honnêtement, j'ai fait. Bon, moi, j'ai vite fait.
C'est une minute, compo.
j'ai fait ma petite compo cet après-midi.
Non, il y a Strootman.
Ouais, il y a Strootman en 6. Bon, de toute façon, Strootman, on peut dire ce qu'on veut dessus. Strootman, je pense que c'est un joueur qui a été, qui n'est plus, mais qui ne sera plus rien, en fait. Je pense que Strootman, il n'y a plus rien à faire dessus.
Ouais.
Même plus à mal en parler, quoi, en fait. faut juste qu'il termine sa carrière et puis c'est terminé.
David, le match demain soir sur RMC, on a bien senti que c'est peut-être le bon moment pour Marseille de faire quelque chose à Lyon. On verra demain soir. Juste pour l'anecdote, Maxwell Cornet est venu également en conférence de presse aujourd'hui. Comme il joue maintenant parfois latéral, il a dit que maintenant il regardait les matchs de foot de façon différente. Il regarde Jordi Alba pour lui piquer les trucs. Maxwell Cornet, c'est pas mal.
Ouais, c'est plutôt bien. Adapte. Depuis qu'il m'a croisé en vacances,
sans blague,
il est devenu titulaire. Moi, je l'aime bien, lui. Je trouve que vraiment, il se prend pas pour un autre. Il bosse. Alors après, il a dû déjouer.
Il mériterait peut-être de jouer un peu plus d'ailleurs.
Parce que franchement, c'est un des joueurs. Rappelle-toi.
Dis ça parce que Daniel est pas là. Hein.
Non. Plusieurs fois, je l'ai dit. Mais l'année dernière, rappelle-toi, les matchs de Ligue des Champions, il était souvent titulaire.
C'est
les
bizarre
gros
avec lui,
de Lyon.
Il est meilleur à droite lorsqu'il joue un peu plus haut, je trouve, pour rentrer sur son pied gauche. On l'a vu souvent.
Ah, mais là, il fait des bonnes
choses. Mais à gauche, il arrive quand même.
C'est peut-être plus simple pour lui parce qu'il est face au jeu.
Il a le jeu devant. Ouais, c'est plus facile.
Après, il n'est pas toujours propre techniquement, mais il est capable de faire des bonnes choses. En tout cas, il a une belle activité. Moi, je trouve que voilà, c'est plus fort que certains au poste d'arrière-gauche, ça c'est sûr. Et pourtant, c'est des spécialistes du poste.
Il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on écoute Thomas Tourelle, qui est revenu sur cette histoire de négativité là, dont on a parlé hier, concept initié par Leonardo. Écoutez ce qu'en pense Thomas Tourelle, c'est intéressant à une semaine du match contre Dortmund.
On peut dire que c'est aussi notre faute parce que l'histoire du PSG est un peu comme ça avec le match contre Barcelone, contre Madrid et contre Man U l'année dernière. On a perdu ce match-là et pour ça, oui, on peut peut-être pas attendre que tout le monde est super positif. Pour moi, ça change rien parce que nous sommes ici à Oredou, je suis avec l'équipe chaque jour et nous sommes très très heureux qu'on arrive encore dans les 8e finale.
Eh bien lui ouais. Quand même.
Nous sommes ici à Oredou, maintenant ouais. On ne dit plus le camp des loges. Hein.
Ouais. Ça c'est pas bien par contre. Bref. Le camp des loges ça reste. Ouais,
c'est pour l'anecdote.
Non mais, ouais. Mais Oredou. Mais moi franchement, tu vois, on parle de Garcia et de sa communication. On peut me dire ce qu'on veut sur Thomas Tuchel, mais moi j'adore sa communication. Des fois, il est trop franc, mais au moins, il dit ce qu'il pense. Il n'y a pas d'effet d'annonce. Je pense qu'il...
Il n'y a pas de calcul, surtout.
Ouais, il n'y a pas de calcul. Et c'est très franc, très direct. Et je pense que c'est très intelligent.
Et moi je rajoute, alors moi, qui suis parfois négatif, du moins sceptique sur la façon de faire fonctionner ce groupe, même si ce n'est pas facile, attention. Là, je l'ai trouvé très bon. Oui. Très bon. Meilleur que Leonardo. Donc quand il parle de la négative attitude,
j'aimerais bien qu'il gagne la Ligue des Champions.
Non mais
ce serait un beau pied de
lui, il se met déjà dans la peau.
En fait, il a contredit Leonardo d'ailleurs en fait.
Ouais, exactement, mais il se met dans la peau d'un entraîneur de foot. Il te rappelle quand même s'il n'était pas l'entraîneur, qu'il y a eu Barcelone et le Real Madrid et que c'est difficile de se remettre de telles claques. Derrière, il y a une autre claque et là, il est responsable aussi. Donc voilà, non, mais c'est bien. Il est et comme il dit, il est content d'avoir cette équipe qui fonctionne bien, ça marche bien.
Neymar, écoute, demain, une nouvelle fois, sera préservé. Il ne jouera pas contre Dijon. Bernat fait son retour. Kimpembe et Verratti sont incertains. Marquinhos préservé.
Moi, je vais bien dormir. Moi, j'ai eu peur. Kurzawa, titulaire à Dortmund. Bernat
sinon,
revient.
Klinsmann quitte le Hertha Berlin. Il a tenu seulement 10 semaines, Klinsmann. Je vous signale que Adebayor a signé au Paraguay, dans le plus grand club paraguayen, l'Olimpia Asuncion. Il va jouer avec Roque Santa Cruz.
Ça va aller vite.
Exactement.
Roque. Roque Santa Cruz, il a quel âge?
Et puis, fin de saison pour Zaïdou Youssouf. Santa Cruz, il a démarré sa carrière à 16 ans. Donc,
il a 45 ans, Santa Cruz.
En tout cas, Zaïdou Youssouf, lui, a terminé sa saison à Saint-Etienne, blessé au genou. Lésion partielle du ligament latéral interne pour Zaïdou Youssouf. Et puis, notre jeu, a-t-on un gagnant ce soir? On accueille.
Te trompe pas.
Nicolas. Nicolas,
la tribune est bien garnie déjà.
Oui, allô?
Salut,
Nicolas.
Nicolas.
Tu nous entends?
Nicolas.
Salut, les gars. Oui, je vous entends.
Nicolas, qu'est-ce que tu as choisi comme siège dans la tribune RMC?
J'ai choisi le C2.
Aïe, C2, mauvaise pioche. C'est pas pour ce soir, Nicolas, désolé.
Aïe.
Faut retenter. Tu peux retenter ta chance dès demain.
Juste à côté, s'il y était.
Dans le Super Moscato Show. T'envoies foot par SMS au 732-16. Bon, on est bien gagnant hier soir, malheureusement, ça ne tombe pas tous les soirs.
C'est que quand t'es un siège près...
Nicolas, on va quand même t'offrir un t-shirt Nicolas, de l'After, petite compensation.
Ah, c'est trop gentil.
Légère. Ouais. Mais il n'y aura pas de place pour Dortmund PSG ce soir.
Je le signerai, pas Kevin, mais moi je le signerai, t'en fais pas.
Et puis un DVD aussi du Joker, film RMC de la semaine. Voilà, c'est cadeau, petit panier garni, Nicolas. Prochain jeu demain dans le Super Moscato Show.
C'est con quand même de faire C2 alors que là le C3 était gagnant.
Attends, c'est rien.
Si, bah, je l'ai sous les yeux la grille.
Ah non, je crois que C3 ça a déjà été donné.
C'est, bah...
Tu m'as dit C2 c'était la Coupe des Coupes. Pour le PSG c'était un bon choix. Ouais. Demain soir les gars, vous serez là pour analyser le match
Marseille,
mais aussi Dijon PSG qui est demain. Bonne nuit à tous, à demain soir dans l'After.
Allez, bonne nuit.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.